A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Cédric Ido a une belle tête de comédien, mais c'est le réalisateur que je reçois. Une belle tête de réalisateur d'ailleurs, grand amoureux de l'image, passé par le dessin, et ça se voit sur grand écran. Cette rediffusion en sol majeur sera perlée par ses deux premiers courts-métrages, Asaki Yasuda, c'est un film samouraï tourné dans un lingala réinventé, et Toaga, sur un petit burkinabé qui se rêve en super-héros à l'époque du capitaine Sankara. Voilà déjà quelques petits cailloux qui mènent à la forêt intérieure de notre invité, qui, je le sens bien, a un appétit d'ogre en tant que réalisateur franco-burkinabé. Un appétit qui fait envie, le voilà qui signe avec Maudy Barry son premier long métrage, La vie de château, sorti il y a quelques mois sur nos écrans français. Beauté, hi et bonjour, Cédric Ido.
Je répondrai bonjour.
C'est tout.
Voilà. Juste bonjour, je pense que ça fait un peu l'amalgame de tout.
Alors est-ce que c'est vrai que votre regard porte loin entre les États-Unis, la France et le continent? Est-ce que c'est vrai que vous vous sentez une fin de loup?
Ouais, je veux dire qu'il y a énormément d'inspiration chez moi, pas mal de choses. J'ai baigné dans plein de cultures, que ce soit la culture pop, la culture burkinabé, et puis la culture française, quoi. Et puis plein d'autres, des inspirations que je suis parti chercher après, du côté de l'Asie, par le Japon, des choses comme ça. Et je pense que pour moi, le cinéma a été la meilleure manière de faire la symbiose de tout ça et de me raconter à travers cet art, quoi.
Alors, vous voilà porteur aujourd'hui d'un premier long, tourné dans le quartier parisien de Château d'Eau. C'est un Paris métissé, avec sur les trottoirs le peuple du monde qui vaque, qui traque, entre Vélib et sortie de métro bondée à Paris.
Paris, Paris, Paris.
C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, mais... C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre bourse blonde. On sait le mieux du monde, coiffé avec vos bijoux. Mais oui, Paris, la chasse élégante. C'est l'âme de la sorte. Tout cela, oui, c'est Paris.
Mais pourquoi, Cédric Ido, vous avez fait tapis rouge à la voix de Joséphine Baker quasiment en ouverture de votre film La vie de château?
Pour plusieurs raisons. En fait, avec Maudy, on cherchait la musique du quartier. Et en fait, on s'est aperçu que, en cherchant, bien sûr en dehors du film, en cherchant nos références et ces choses-là, on a regardé pas mal aussi de films africains, notamment d'Ibril Diop Mambéty. Tuki et Buki, ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait une chanson comme ça qui revenait assez souvent, qui, je vais pas résumer le film, mais c'est deux personnages comme ça qui se rêvent venir à Paris et qui et cette musique en fait rythme souvent leur rêve, on va dire, quoi, de Paris. Et on s'est dit que c'était un peu les prémices de certains de nos personnages, parce que c'est des films qui se passent en Afrique et c'est des inspirations directes, quoi.
Joli go! C'est quoi ces cheveux là?
Tu sors d'où?
Et toi d'où tu sors?
Mais moi je sors du quartier, je t'attends toute la fin de journée.
Hein?
Écoute, je connais une coiffeuse. Tu sais quoi? Elle veut te faire un bon prix. En plus, elle cherche mannequin pour sa vitrine. Ça te dit?
Vas-y, ma copine. Ma copine, elle sera intéressée direct, t'inquiète.
Elle s'appelle comment? Peut-être je la connais?
Beyoncé, il faut la réserver, hein?
V. Comme vie de quartier.
Vie de quartier, vie de château. Alors, la vie de château, eh oui, c'est l'histoire d'un périmètre de rue dans ce quartier africain du 10e arrondissement, tenu par des rabatteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un rabatteur?
Alors, un rabatteur, c'est des mecs qui sont postés comme ça sur le boulevard de Strasbourg pour cibler que cet endroit-là et qui sont censés rameuter des jeunes filles.
Des go
dans les salons. Et voilà, c'est un peu au culot comme ça, c'est des espèces de dragueurs, des mecs qui se mettent en scène. Et c'est à celui qui se met le mieux en scène, qui arrive à ramener des femmes dans les salons pour se coiffer.
Voilà. Des dragueurs, des sans-papiers?
Des dragueurs, des sans-papiers, oui, forcément, pas tous. Mais voilà, c'est un vrai métier. Et puis des sans-papiers, c'est quelque chose, on va dire, qu'on apprête directement au rabatteur en général, mais nous, on n'a pas voulu justement prendre ce parti-là, insister sur ça, parce que c'est des choses qu'on porte sur eux déjà, nous, on avait envie d'avoir un autre regard beaucoup plus tendre et de montrer l'humanité qu'il y avait en eux, tout simplement, quoi.
Alors, effectivement, ils sont en grappe, vos rabatteurs, à la sortie de ce métro Château d'Eau. Et il y a visiblement deux chefs qui se battent un petit peu l'autorité du quartier. On a d'un côté Charles, qui s'appelle Charles comme le prince, et Bébé. Deux personnages très différents.
Oui. Alors, il y a l'ancienne génération Charles, qui c'est un peu l'élégance à l'ancienne, et puis les bonnes manières. Et puis d'ailleurs, il y a toute une déclinaison comme ça, des cours royales. C'est-à-dire que le château, son nom, le prince, et toutes ces choses-là qu'on peut plus ou moins prêter à la royauté, on va dire.
Il s'invente une espèce de mythologie.
Il s'invente une espèce de mythologie, complètement. Et puis à côté, il y a cette espèce de nouvelle génération, qui est représentée par Bébé, qui lui est un fonceur, qui ne se pose pas de questions. En fait, à la base, le but, c'était de montrer ces personnages-là comme des personnages de théâtre, qui se jouent sur une scène ouverte, en fait, qui sont les quelques rues de ce quartier-là, quoi.
Mais même si on devine dans les coulisses de leur vie des mini-drames, c'est pas un film social. Vous avez voulu en faire, d'ailleurs, il y a un jeu de mots, la vie de château, pour parler de ce quartier Château d'Eau qui donne bien le ton, c'est que vous signez là une comédie. Et vous aimez bien dire que vous signez un vaudeville. Mais c'est quoi un vaudeville à la sauce Château d'Eau?
À la sauce Château d'Eau, déjà, il faut savoir une chose, c'est que le quartier, historiquement, c'était l'ancien quartier des perruquiers, de ces choses-là. Et puis,
il y a l'âme du théâtre.
Il y a l'âme du théâtre, il y a les plus gros théâtres de boulevard qui sont voilà, le Comédia, toutes ces choses-là. Et puis, il y a aussi ce lien avec le fait de se mettre en scène, de se jouer dans ces quelques rues-là. On est arrivé à la base dans le quartier avec nos fantasmes, en se disant c'est un super décor pour un polar ou des choses comme ça qu'on s'imagine en mettant les Nigérians, toutes ces choses-là. Et puis on s'est posé quelques temps, juste à l'écriture, en se disant tout est devant nous déjà, quoi. Pourquoi vouloir raconter autre chose ?
Un théâtre pour lequel vous signez une sorte de chant d'amour, je dirais, pour ce quartier. Hein. Tous ces personnages sont très attachants. Ce sont des dragueurs, des sapeurs, des trafiquants, des bonimenteurs, des rois du système D. C'est tout ça. Mais ça reste gentil avec, encore une fois, vous flirtez avec une thématique dramatique sans jamais y aller vraiment. Parce qu'il y a une phrase que moi j'ai relevée. Je ne sais plus quel personnage dit cette phrase. Qu'est-ce que je vais faire avec un boulot ? C'est-à-dire, c'est une phrase qui fait sourire, et c'est une phrase terrible en même temps.
Oui. Parce que chez tous ces personnages-là, même si on a voulu relever le côté jovial, gentil et tout ça...
Survie.
Il y a une vraie survie. Voilà, c'est ça, c'est là que je voulais en venir. C'est qu'il y a un vrai truc de vie au jour le jour, en fait. Et je pense que celui qui le montre le mieux, c'est peut-être ce personnage de Moussa, qui peut-être, on le devine, je pense... ne sait pas ce qu'il va manger le soir même, quoi. C'est vraiment, c'est comme ça qu'il vit de petits larcins, de petites choses, et qu'il ne le montre pas, en fait. Personne ne se plaint jamais, quoi.
Notre invité en sol majeur, Cédric Ido, qui a planté donc sa caméra dans le salon de coiffure Amy Joy, boulevard Strasbourg-Saint-Denis à Paris. La vie de château, suite.
Ouais, tu peux les allumer quand tu veux.
Et les autres, là, c'est cher ?
C'est correct pour la qualité.
On les trouve où ? Ça m'intéresse plus que tes guirlandes, là.
Je te dirai quand on aura fait affaire.
Ah non, ça je les vends facilement, mais ton truc là, pourquoi les femmes voudraient porter ça ?
Mais tu te rappelles, le vernis fluo, ça va très bien marcher.
Les filles, elles regardent les clips. P. J'ai contacté les comptes du coupé décalé. J'ai payé des dédicaces. Oui, ils sont là, ils me mangent dans la main.
P. Comme.
Les danseuses de Serge Benoît, là, elles vont porter ça.
Petite mythologie personnelle.
Et quand on aura converti Château d'Eau, on convertira toute l'Afrique.
Alors, ce qui fait la marque de fabrique de ce quartier parisien, ce sont ces fameux salons de coiffure, Cédric, notamment. Hein. Vous dites que se créent là, dans ce quartier, des choses qui ont un retentissement jusque sur le continent. Vous pensez à quoi ?
Il y a énormément de choses qui naissent dans ce quartier. Par exemple, la musique, le coupé décalé est né à Château d'Eau, en fait, et a voyagé à travers le monde, justement, mais en partant vraiment de ces quelques rues-là, quoi. Moi, quand j'étais petit et qu'on me parlait de Château d'Eau, déjà, je voyais un château en eau, quoi. Vraiment, je le voyais, je comprenais pas, je me disais, ah oui, ça... Et puis, en venant, ça continuait, ma mère allait là-bas, on faisait un peu le lien avec Château Rouge à l'époque, parce que ceux qui allaient chercher, on va dire, le gombo à l'époque, allaient... deux stations plus loin, se coiffer. Et c'est devenu... Il n'y a jamais vraiment eu quelque chose d'exotique chez moi. en pensant à ce quartier-là, quoi. C'était vraiment voilà, un quartier qui faisait partie de ma vie. Aujourd'hui, mes nièces continuent à aller se coiffer là-bas.
C'est l'antichambre de plein de pays du
voilà,
continent.
Voilà, exactement. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de quartiers comme ça à travers le monde, comme Brooklyn aux États-Unis, Brixton en Angleterre, et puis on parle jamais d'un quartier comme Château d'Eau, quoi, alors que c'est vraiment l'équivalent et c'est aussi emblématique que ces quartiers-là, quoi.
Alors votre film s'ouvre sur une très jolie scène avec le barbier du quartier, ça existe encore, hein, Château d'Eau, qui tout en rasant notre fameux Charles, toujours bien sapé et tiré à quatre épingles, lui dit des poèmes en kurde. C'est un beau moment parce que là, ce que vous nous suggérez, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler une certaine poésie dans ce quartier. Il y a la poésie de Château d'Eau.
En fait, ce qui est vraiment poétique, c'est que tout tourne autour de la coiffure, on va dire, et qu'il y a toutes ces communautés qui se mélangent, qui avancent ensemble justement, sans peut-être s'en rendre compte, qui avancent ensemble pour faire vivre ce quartier-là, quoi. Et pour nous, c'était un bel hommage et forcément une manière poétique de créer du lien entre ces personnages-là, quoi. Je pense qu'il n'y a rien d'autre que la poésie qui pouvait les lier. Puis il y a une espèce de passation comme ça, ces personnages de Mourad, qui est un peu le père spirituel de Charles. Charles qui a son père griot au pays. Il a baigné dans cette culture-là, et ici, une fois ici, forcément, c'est quelque chose qui se perd, quoi, et c'est quelque chose qu'il retrouve chez ce Kurde, et quelque part, en dehors de ce quartier-là, il y a forcément des liens culturels, par-delà le monde, comme ça, qui se font, parce que ce poète, en fait, un griot, quoi, tout simplement.
Charles incarne vraiment l'âme de ce quartier. Est-ce que vous êtes d'accord de dire que finalement, le vrai personnage de ce film, c'est le quartier Château d'Eau lui-même ?
Exactement. Ouais, c'est Château d'Eau, c'est tous ces personnages-là. Parce que nous, on tenait justement pour rendre hommage à ce quartier-là, à ce que ce ne soit pas juste une histoire qui cible uniquement un personnage. Comme dans toute histoire de quartier, quoi.
Avec la sensation, quand on regarde la vie de Château, avec la sensation pour le spectateur d'y être totalement, complètement, grâce à votre belle caméra, Cédric Ido, et à la très belle image d'Antoine Monod, on a vraiment la sensation de faire partie de cette foule de badauds. Vous aviez quelle référence en tête en termes d'image ?
On avait pas mal de références avec Maudit. Déjà, il faut savoir qu'on est tous les deux des amoureux des films de gangsters des années 70. Et puis c'est vraiment là qu'on s'est plus ou moins forgé un style cinématographique et tout. Et puis quand on est arrivé, juste pareil, avec nos fantasmes dans le quartier, on s'est dit on va refaire un film en calquant les films japonais des années 70, notamment de Kenji Fukasaku, qui est l'un de nos réalisateurs favoris à tous les deux. Et du coup, voilà, on s'est vite rendu compte que c'était une inspiration, mais qu'on pouvait pas coller ce style-là, justement, qui est plutôt décerné à des polars, à des choses comme ça. Et puis, fallait faire exister ce quartier-là plutôt que d'être dans un style et créer un espace pour que les comédiens puissent s'exprimer, justement. Parce que la vraie force, c'était eux.
Avec, pour une des premières fois dans un film hexagonal, beaucoup plus de noir que de blanc. Est-ce que ça, c'était une volonté ?
À vrai dire, c'était pas forcément une volonté, c'est quelque chose d'absolument naturel. Et puis, c'était plus notre volonté, elle était ailleurs. Contrairement à énormément de comédies communautaires, on va dire, entre guillemets, tout se joue par rapport à l'Occident, en fait, par rapport aux Blancs, et puis que ce soit des Chinois, des Juifs ou ce qu'on veut, il y a toujours, soit ils viennent de l'extérieur, soit on les emmène hors de leur champ d'action et qu'ils soient totalement perdus, et ça crée des situations gaguesques, en fait. Et nous, on voulait absolument pas être dans ça, on voulait être justement à hauteur de ce quartier, à hauteur de ces personnages-là, les enjeux se jouent dans de ces personnages-là, mais il n'y avait pas de vœu comme ça de dire on va raconter... avec des communautés autres que des communautés blanches. Quoi.
C'est tout sauf un film communautaire, soyons clairs.
Absolument.
Clap moteur sur une scène où l'un des personnages, Sonia, cherche à faire commerce pour son salon de coiffure avec des Indiens du quartier. C'est la vie de Château sur RFI.
Redonne-moi le kilo de 16 pouces.
Voilà.
Les
cheveux indiens sont les meilleurs sur le marché. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Hein? Toutes nos mèches sont remises, 100% naturelles. Ils ne sont pas du tout mélangés avec les cheveux chinois. Hein. Ça, vous pouvez être sûr.
Non, je sais, autrement je ne serais pas là.
La force et, je dirais, le charme de ce film La vie de Château, c'est évidemment le traitement de la langue ou des langues de ce quartier, Cédric Ido. Qu'est-ce que vous vouliez entendre ?
En fait, moi je suis un amoureux des langues, on va dire, et pour moi, il y a énormément de choses qui passent par les langues pour expliquer justement une certaine dramaturgie, c'est des personnages, il suffit juste certaines fois de leur faire dire deux mots dans une langue et il y a tout un champ qui se crée derrière, quoi. Et il y avait aussi un souci d'authenticité, même le casting était dirigé vers là. Toutes ces cultures qui se côtoient sont mises en lumière par ces langues qui sont parlées, quoi, voilà.
Alors il faut que je vous dise, moi j'ai adoré cette nouvelle génération d'acteurs noirs dans votre film. Cédric Ido, bon il y a votre frère, Jacky Ido, on en reparlera peut-être, qui fait une carrière, il est passé par Monsieur Quentin Tarantino, rien moins. On a Jean-Baptiste Anoumont, magnifique, un comédien au vrai sens de la comédie.
Oui, c'est ça.
Et puis Ralph Amousseau, en passant par les grands confirmés comme William Nadilam, voilà, ou Félicité Ouassi. Vous disiez à l'instant votre intention de ne pas faire de film communautaire, je crois que c'est une vraie grande force, et en même temps vous donnez à entendre cette diversité. Est-ce que c'est un vœu au fond, de voir qu'elle s'exprime sans qu'il y ait forcément un discours derrière?
C'est un vœu parce qu'on entend souvent qu'il n'y a pas de comédien noir, et que moi je suis comédien, j'ai une formation de comédien, j'ai travaillé avec énormément de comédiens et j'en vois tout le temps. Et que là aussi ce film c'était une manière de créer une vitrine pour tous ces gens qu'on admire et qu'on aime, comme William Nadilam qui est un énorme comédien.
Exilé malheureusement aux États-Unis.
Voilà, et que j'espère que ma génération va créer des espèces de vitrines pour qu'ils puissent s'exprimer justement, et on se bat pour ça. Et puis ça vient de manière assez naturelle aussi, comme c'est mon univers. C'est pour ça que je disais que je me pose pas forcément la question de me dire je vais écrire pour des noirs ou je vais écrire pour un tel ou un tel, c'est juste que j'écris en pensant à des gens qui m'inspirent.
Un petit peu de rap.
Oui.
Ça nous ferait pas de mal, non?
Avec plaisir.
Voilà, surtout s'il s'agit du rap de Method Man.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qu'il a de particulier pour vous, ce rappeur américain?
Bah en fait, c'est un peu au-delà de du côté iconique de Method Man, c'est les premières chansons rap que j'écoutais avec mon frère, on va dire. Et puis c'est un peu comme ça qu'on a baigné dans la culture américaine, quoi. C'est avec ces rappeurs-là, et puis c'est des choses que j'écoute encore jusqu'à aujourd'hui et qui me nourrissent, quoi.
Keep it moving, baby, we be moving, you know we keep it moving.
petit air de I Will Survive avec Method Man sur RFI dans l'ensemble majeur de Cédric Ido, un artiste qui se réalise. Allez, le tournage reprend. Je parle du tournage de La Vie de Château. Une caméra plantée en plein cœur de Paris pour vivre au rythme des rabatteurs d'un quartier afro qui cherche à être bien sapé, bien friqué, dans le coup, coupé décalé, quand c'est pas jazz. L'auteur de ce film a 36 ans, un pied dans les arts martiaux, une main dans le dessin, le cœur qui capitule tout de suite devant tout ce qui est comédie ou comics. Impossible de se mettre à dos Cédric Ido. D'accord, il vient de ce pays inventé par les politiques, qu'on appelle en France « diversité », mais notre artiste ne vit que pour l'imaginaire, et ça c'est un passeport qui ne demande aucune permission.
Amours.
Est-ce que vous pourriez les dire, vous aussi, ces paroles chantées par Joséphine Baker, Cédric Ido ?
Pas avec la même voix. Tout le monde va se sauver si je commence à les chanter. Mais ouais.
Vous me cherchez, là. J'aimerais bien entendre. Oh. Paris et Ouaga ?
Paris et Ouaga, oui. Ouaga, parce que j'ai grandi à Ouaga et que je pense que c'est la période de ma vie qui m'a le plus marqué.
Et Paris, parce que Paris.
Et Paris, parce que Paris, parce que je vis à Paris, parce que je suis parisien et que je suis fruit de la banlieue, mais je suis parisien.
Est-ce que vous êtes, par exemple, si on reste dans cette thématique, j'ai deux amours, est-ce que vous êtes ballet citoyen ou nuit debout ?
Je dirais plus ballet citoyen, parce que j'ai plus suivi un peu et que j'étais derrière, en essayant de m'impliquer le plus possible, en prenant des nouvelles, en essayant de me raccorder un peu à certaines personnes de ce mouvement-là, et puis aussi une joie de voir ce changement, une nouvelle révolution aussi, après 27 ans. En fait, c'est toujours bien de se mettre dans la tête qu'est-ce qui va se passer maintenant, quoi.
Vous avez davantage envie de vous investir politiquement, entre guillemets, hein, du côté Burkina plutôt que du côté français ?
Non, c'est pas une question que je me pose, en fait, vraiment. Des deux côtés, le fait d'avoir cette double culture, ça m'a permis de prendre une certaine distance aussi, quoi. Et que c'est peut-être la bonne distance, j'espère, pour raconter des choses et pour faire ce que j'aime, justement, des films.
Alors, tout s'est joué pour vous dans l'enfance, entre Ouagadougou et puis la région parisienne. Il y a eu des allers-retours. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Moi, je suis né en France, à 3 ans, mais... On est reparti avec ma mère et mon grand frère Jackie, justement, à revivre au Burkina.
Pour quelle raison ?
Comme ça, parce que ma mère voulait retourner, elle n'avait pas de travail ici, elle pouvait travailler au Burkina, mon père est resté ici. Et voilà, on a passé 5 ans, on est tombé pile pendant la période de Sankara, mais vraiment de manière totalement hasardeuse. En général, on dit qu'on n'a pas de souvenirs avant ces 5 ans. Et la rupture était telle que moi, je me souviens de certains moments, en fait, et que à l'arrivée au Burkina, j'avais que 3 ans. Et il y a des choses comme ça, des sensations, des images, choses qui me sont restées. C'est-à-dire que la rupture était telle que c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'impression que le fait d'avoir grandi de 3 à 8 ans au Burkina ont été une aubaine, quoi. Notamment d'avoir une partie d'éducation, justement, à l'africaine, on va dire, et puis de connaître aussi mes racines, de ne pas fantasmer ces choses-là aujourd'hui, parce que je les ai vraiment connues à la bonne époque, quoi. Et que souvent, c'est ce qu'on reproche à la diaspora, c'est de se lever pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'ai l'impression de l'avoir connu, de l'avoir digéré, et j'ai même pas besoin de le revendiquer, parce que c'est là, c'est en moi.
Alors, je sais que vous n'avez pas connu vos grands-parents maternels qui viennent d'un petit village qui s'appelle Léo. Mais est-ce que vous savez, en revanche, ce qu'ils ont peut-être vécu dans la colonie de Haute-Volta ?
Non.
Ancien nom du Burkina.
Ouais. Non, pas vraiment, mais ça reste un fantasme pour moi. J'ai un peu cette nostalgie d'une période que je n'ai pas connue. Mais moi, c'est autre chose aussi. Cette nostalgie-là, c'est quelque chose que j'ai, justement, dans mes histoires. Je me rends compte aujourd'hui que... C'est pour ça que je parlais de Samben, Ousmane et des choses comme ça. C'est aussi ça que je vais chercher dans le cinéma, dans ces choses-là. C'est un peu une période que je fantasme, peut-être parce que mes parents ne m'ont pas assez raconté cette période-là. Et même si je cherche à savoir. D'ailleurs, j'ai créé un film qui se passe au Ghana dans les années 50, fin des années 50, à l'indépendance justement. Et puis, j'ai fait un tas de recherches sur cette période-là et je baigne absolument dedans. Et c'est quelque chose que j'adore. Quoi.
C'est votre prochain long ?
Je ne sais pas si c'est le prochain. C'est encore un film de genre. C'est un espèce de western au Ghana à l'indépendance. Quoi.
À suivre. On va retomber un petit peu en enfance avec vous, encore un peu plus, Cédric Ido. Cette enfance, lorsque vous regardiez, comme tout le continent d'ailleurs, Satyam Shivam Sundaram, c'est un film bollywoodien qui date de 1978. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces films de Bollywood ?
En fait, qu'est-ce qui me plaît, c'est aussi des films dans lesquels j'ai baigné, parce qu'il faut savoir que ma mère est une grande fan de cinéma Bollywood, et qu'elle a une collection d'au moins aujourd'hui 600 à 700 DVD, ouais, vraiment.
Ça, c'est de la collectionneuse.
Ouais, ça,
hein.
C'est, ouais. Et du coup, quand on était petit, il y avait cette espèce, avec les VHS et ces choses-là, on regardait énormément de films indiens à la maison, c'était un peu la distraction.
Et oui, dans votre enfance entre le Burkina et la France, Cédric Ido, il y avait ses épices musicales, mais il y avait aussi des films de kung-fu comme Evil Cult du Hongkongais Wong Jing. Vous êtes à la fête alors, Cédric, quand vous entendez cet extrait de Kung Fu Cult Master ?
Cult, Evil Cult.
Evil Cult.
Evil Cult, ouais, c'est un des films qui m'a marqué. Mais j'en regardais plein d'autres. Celui-ci est un peu plus ancien, je crois que c'est d'être des milieux des années 90, je crois.
Ah, c'est vous le connaisseur.
Voilà. Et, mais sinon, petit, j'en regardais énormément. Je me souviens que c'était mes cousins qui venaient d'Allemagne, quand j'étais au Burkina, justement, qui venaient avec plein de films de kung-fu comme ça. Et pareil, ça m'a marqué.
Qu'est-ce qui fonctionne pour vous ?
Il y a le rythme, les combats complètement impossibles, toutes ces choses-là, mais qui sont à la limite justement de l'onirique à chaque fois. Puis toutes ces histoires-là, comme ça, qu'on ne comprend pas petit, mais qu'on comprend plus tard. Et je pense qu'il y a énormément de choses que les Chinois justement faisaient passer au peuple, justement, ce qui est de... peut-être quelque part le but du cinéma populaire aussi.
En tout cas, vous avez préservé cet imaginaire d'enfant de façon vraiment professionnelle aujourd'hui. C'est ça qui est magnifique, puisque cet imaginaire fait partie de votre bagage de cinéaste avec ce premier court-métrage que je trouve somptueux. Il date de 2010, c'est un film de samouraï.
C'est ça.
Que vous avez intitulé...
Hasaki Yasuda.
Qui veut dire ?
En fait, c'est un mélange de deux langues, de lingala et de japonais en fait. Et Hasaki, ça veut dire, c'est le bout de la lame, en fait, le bout de la lame du sabre. C'est Hasaki. Et Yasuda, c'est du sud. En fait, c'est en lingala. Du coup, littéralement, ça veut dire les lames du sud.
Et il y a une trame ?
Il y a une trame, ouais, il y a une trame. C'est un espèce de film post-apocalyptique.
C'est-à-dire qu'il y a eu une catastrophe climatique ?
Ouais, plus ou moins. C'est vraiment au moment où on commençait à sensibiliser un peu tout le monde avec le film d'Al Gore. Et je me souviens qu'à la fac, il nous obligeait à regarder ce film. Et il y avait un peu un truc comme ça de propagande américaine. Voilà le nouveau truc dont il faut parler absolument. Et je me suis tout bêtement dit, ouais, le réchauffement climatique, d'accord, mais on est encore dans le point de vue de l'Occident. Et puis si je détourne les choses et si je l'emmène là où vraiment dans des régions subsahariennes ou ces choses-là, on n'en parle jamais, mais si réchauffement climatique, ça va devenir invivable pour ces populations-là. Et du coup, je me suis juste dit, qu'est-ce que ça donnerait dans 100 ans peut-être si on arrivait à une espèce de climax justement du réchauffement climatique. Forcément, il y aura un exode massif des populations du sud vers le nord. Qu'est-ce qui se passerait forcément, une espèce de cataclysme entre les populations du sud et du nord et qui créerait peut-être une nouvelle société, quoi.
Et donc on assiste à un combat pour la survie entre un samouraï africain et un samouraï asiatique.
Shondaruo. Ozamoto Yamabe.
Otemae zanai kunatte.
Togi otigiette toyakobun disayo.
Oko kakugo kusimbae ngaite.
Ndanamoto. Hikiken wanayo.
Yasoro. Akotiga mastana abiso wa kende nae.
Bokasio.
Bon, je pense que vous n'arriverez pas à m'apprendre à me battre aussi bien que ces deux samouraïs, mais est-ce que vous pourriez m'apprendre, Cédric Ido, à parler cette langue qui existe dans votre film?
Qui existe dans le film. En fait, c'est un mélange de deux langues, de lingala justement et de japonais. À la base, je rêvais de faire un film de samouraï, mais le problème, c'est que dans les films de samouraï, il faut parler japonais, quoi. Aucun des comédiens, ni moi, n'étions capables de parler japonais et que j'avais pas envie d'utiliser des onomatopées ou des choses comme ça qui desserviraient complètement le propos. En réfléchissant, en écoutant, en entendant aussi un ami justement qui est chanteur, qui est congolais justement, je l'ai entendu un jour chanter, puis je me suis dit, ah ouais, mais déjà c'est une langue que j'aime beaucoup, lingala, quoi. Je me suis dit, mais c'est très très proche du japonais en fait. En travaillant avec lui, justement, moi je comprends un tout petit peu quelques mots, des choses comme ça, et puis en travaillant avec lui sur les répliques du film, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de mots français justement qui passaient dans le langage courant, lingala, quoi. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, voilà, tout bêtement, bah, c'est l'occasion de mettre du japonais partout où il y a ces creux-là, quoi.
Asaki Yasuda, de Cédric Ido, avec techniquement un travail sur la 3D absolument magnifique, des plans de samouraïs, sabre contre sabre, qui s'affrontent dans des paysages quasi désertiques.
C'est ça.
Quel travail vous avez souhaité sur l'image ?
On n'avait pas beaucoup d'argent, mais il fallait juste... C'est peut-être une aubaine de ne pas avoir énormément d'argent, parce que ça nous oblige à nous creuser un peu le cerveau. Et le décor justement a joué, avait une part extrêmement importante. Le décor, fallait, on dirait qu'on a tourné en Amérique du Sud, alors qu'on a tourné dans le Cosméjan, dans les Cévennes, dans une réserve protégée encore. Et pareil pour les costumes, fallait aussi trouver quelque chose qui lie une partie de l'Afrique au Japon justement, et puis revenir dans quelque chose de traditionnel dans les deux, quoi.
Et ce qui est très joli, c'est que en voyant cet affrontement entre samouraïs africains et asiatiques, ça marche. J'aimerais qu'on retourne sur les routes de Ouaga avec vous, Cédric Ido, le Ouaga révolutionnaire de 1983.
Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette.
Et...
Nous ne pouvons pas payer la dette parce que, au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang.
Ah, comme Avatar.
Alors, je ne sais pas si vous avez porté le béret révolutionnaire, mais en tout cas, vous avez vécu donc entre 83 et 87 la période de Sankara.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure, que vous aviez gardé en vous des sensations, même à l'âge de 3 ans, de cette révolution Sankara?
Oui, complètement, en fait. C'est un peu ce que j'ai essayé d'illustrer dans ce film, c'est que pour un gamin de 5-6 ans à l'époque, on sait qu'il se passe quelque chose dans le pays.
Vous vous souvenez de quoi ? Est-ce que vous vous souvenez effectivement de la présence de la voix de Sankara absolument partout, dans tous les lieux de vie ?
Oui, je me souviens de la voix de Sankara, je me souviens des TPR. Les TPR, c'était les espèces de procès radio diffusés.
Les tribunaux ?
Oui, les tribunaux populaires de la Révolution, voilà, c'est ça. Et les discordances, en fait, entre les pro-Sankara et ceux qui n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ne voulaient pas faire ci, ils ne voulaient pas faire ça. Et c'est un peu ce que j'illustrais dans le film aussi, avec les deux parents, un qui est d'accord, un qui n'est pas d'accord, parce que c'était un peu ce que j'entendais. Et puis,
Vous voulez un peu d'eau ?
Merci, s'il vous plaît.
Ouais, en parlant de la révolution Sankara, il faut toujours un petit peu s'altérer.
Ouais,
ouais.
C'est ça.
En tout cas, cette imprégnation vocale de Sankara court dans Touaga, votre court-métrage, qui s'ouvre sur une scène de ritualisation. On voit une très belle scène de corps d'hommes nus qui se purifient en disant « L'esprit des ancêtres t'accompagne ». Et c'est une scène qui est épiée par un petit garçon de 8 ans, fan de BD, qui court acheter des comics au marché d'Ouaga. On est au Burkina Faso en 1987.
Sibidi, est-ce que c'est vrai que tout le monde peut être des super-héros comme Spider-Man?
Bon, ça dépend de leur motivation.
Motivation la même, là. Ça veut dire quoi, là?
Motivation, ça veut dire raison pour laquelle les super-héros se battent. Par exemple, les X-Men. Ouais. Le professeur Xavier, lui, il lutte pour la paix entre les humains et les mutants. Mm-hmm. Les auteurs des bandes dessinées, ils se sont inspirés de l'idéologie de Martin Luther King. Mm-hmm. Magneto, lui, se bat pour la domination des mutants.
Oui, oui.
Bah, ça, c'est Malcolm X, il est inspiré ce personnage. Mm-hmm. Voilà. Et le professeur Xavier et Magneto, mm-hmm, ils ont tous les deux le même pouvoir. Mm-hmm. Mais ils n'ont pas les mêmes motivations. Tu comprends?
Oui.
Ouais, c'est ça.
Malcolm X et Martin Luther King, et c'était quoi leur pouvoir?
Les sommets.
Extrait en sol majeur de Touaga, qui a été primé au Festival panafricain du cinéma et télévision de Ouagadougou, hein, entre parenthèses, Cédric Ido. Ça veut dire quoi, Touaga?
Touaga, en fait, c'est un mot revisité, en fait, c'est en moré. Le moré qui est la langue la plus parlée au Burkina, en fait. Et Touaga, ça veut dire strict, brave, aussi ça peut vouloir dire invincible. Et voilà, ça veut dire un peu tout ça. C'était aussi une manière de créer le lien entre ce qui est en train de se passer dans le pays, une période assez stricte aussi pour beaucoup, et puis cette espèce d'invincibilité qui rejoint les super-héros et qui a coûté la vie à Sankara aussi, peut-être, de se penser invincible, je veux dire.
La question, c'est que devient Sankara dans la tête de ce petit garçon fan des comics américains?
Sankara devient un super-héros pour cet enfant, pour ce gamin, cette voix qu'il entend, omniprésente, qui l'anime quelque part. C'est un peu de la manière dont je l'ai vécu avant de m'y intéresser vraiment plus tard, quoi. C'est un peu comme ce gamin, cette voix qu'on entend, et puis un peu comme dans les rêves, quand on entend une voix qu'on amalgame dans ses rêves et qu'on mélange.
Et donc la voix de Sankara rentre dans les bandes dessinées que lit ce petit garçon. Et il y a des incrustations de bandes dessinées dans votre film, c'est parce ça, que vous dessinez.
Voilà, je
Cédric
dessine.
Ido.
Voilà. Pour moi, en général, j'essaye de mettre pareil comme dans Asaki Yasuda, et tout un prologue qui est raconté en dessin et que j'ai dessiné. J'aime bien penser les histoires en dessinant. J'aurais rêvé faire des dessins animés, mais bon, c'est pas le cas. Je me retrouve réalisateur de fiction.
Oh, vous vous rendez compte, quel destin terrible et tragique, hein,
exact,
Cédric Ido.
Ouais.
Mais quand même, alors, une question sérieuse, là. L'histoire de ce fantasme de héros, vous l'installez pas à n'importe quel moment, pile en 1987, c'est-à-dire juste avant l'assassinat de Sankara.
Exact.
Pourquoi?
En fait, ce film, c'est une espèce de métaphore aussi. C'est que le petit gamin est une allégorie de Sankara. Ce petit gamin qui court au secours de son frère, qui se rêve ce grand sauveur et qui finit par périr justement parce qu'il veut porter son aide à ses proches, quoi. Et la chose se passe peut-être en même temps que l'assassinat de Sankara, en fait.
C'est un film de genre ou un film politique?
Je dirais c'est un film politique, un peu comme tous les films, mais pas politicien, en fait, parce que j'ai pas voulu porter un jugement à Sankara, à ses agissements. J'avais juste envie de témoigner de quelque chose, quoi, et que forcément c'est politique.
Mais ce petit garçon, il dit quelque chose très fort à la place de tous les petits garçons qui vivent sur le continent, c'est que ce continent a besoin de héros.
Exact.
Pour s'aimer.
Ouais. Et que Sankara remplissait quelque part ce rôle, justement, de héros, de super-héros, qui aujourd'hui, je ne sais pas si on a quelqu'un de l'envergure de Sankara en Afrique, puisque ça reste quand même l'une des figures emblématiques de révolution.
Est-ce que c'est une terre laboratoire pour vous, le Burkina, en tant que cinéaste, autant que la France?
Ouais, je dirais autant, ça m'inspire autant, peut-être des fois un peu plus. Là, après avoir tourné un film ici, j'ai envie de retourner faire quelque chose au Burkina, parce qu'il y a plein de choses qui m'inspirent comme ça, dans le traditionnel, dans ces choses-là que j'ai plus ou moins côtoyées. J'ai envie de rentrer un peu plus dedans. Que justement, le simple fait de travailler sur un film, d'écrire, ça me permet de rentrer vraiment dans le fond et d'en apprendre un peu plus aussi sur le pays et sur moi aussi.
Vous vous sentez être un métis culturel?
Complètement, mais un métis de plus que deux cultures.
C'est-à-dire?
Non, je draine comme ça, j'aime bien aller chercher partout. J'ai du mal à m'arrêter justement à ces frontières-là, en France et puis au Burkina. C'est peut-être pas la meilleure manière de me raconter. Et puis voilà, j'aime bien aller chercher, j'ai plus de complexe par rapport à ça.
Bah oui, après être passé par le pays de Spike Lee, ça décomplexe un maximum. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est votre cas. Hein. Vous avez eu un parcours de comédien, vous êtes passé par le théâtre, la Comédie française où vous avez joué Ruy Blas.
Non, j'ai pas joué Ruy Blas, j'ai joué dans la pièce Ruy Blas.
Dans la pièce de Ruy Blas, vous avez vu comment c'est méchant la syntaxe. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans un film de Spike Lee?
En fait,
quand on est un petit comédien français.
Ouais, c'est ça. C'est que faut rencontrer les bonnes personnes et ça arrive souvent plus vite aux États-Unis ou ailleurs. Qu'en France, en tout cas. Et puis les gens sont très généreux. En fait, j'avais une coach, Suzanne Batson, en fait, qui est la coach de Nicole Kidman, de Juliette Binoche, entre autres, et qui voyait mes efforts et qui aimait beaucoup ce que je faisais en cours et tout ça. Elle m'avait pris sous son aile, elle me faisait pas payer ses cours. J'étais le pauvre petit français qui venait galérer à New York et qui. Et elle a absolument tenu à...
C'est vrai que vous faites très Calimero, hein. Vous y arrivez bien, je pense.
Ah, et justement, ça a marché. Et elle a tenu à me présenter à Spike Lee. Et il tournait à l'époque Miracle à Santana, justement. Et que je suis arrivé sur le plateau.
Ça décomplexe vraiment d'avoir un oui d'un Spike Lee.
Complètement, ouais. Ça décomplexe. Mais il y a aussi une approche. C'est quand je me suis rendu compte d'une chose. J'ai eu un parcours scolaire totalement traditionnel ici. Et arrivé là-bas, justement, pendant ces 2 ans, justement, où j'étudiais le cinéma à Purchase, dans une fac à New York, il y a un truc tout bête, c'est que je me suis rendu compte, les profs venaient me voir, la première année ou les premiers cours, ils venaient me voir, ils me disaient, bon, toi, tu vas rester, reste avec moi après le cours. Ils me disent, voilà, j'ai eu ta copie, c'est très bien ce que je t'ai fait lire, je t'ai demandé de me rendre un devoir, mais je t'ai pas demandé de me faire un résumé de ce que l'auteur dit, j'ai envie de savoir ce que toi, tu dis, ce que toi, tu penses de ça, quoi. Et tout de suite, ça a été une espèce d'épiphanie comme ça. Je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est pour ça qu'ils arrivent à créer des individualités. Et je pense que ça m'a énormément aidé aussi dans la création. De se dire, ouais, j'ai le droit, j'ai mon expérience et je peux peut-être raconter les choses différemment. En tout cas, à travers mon prisme à moi et que je l'assume vraiment, quoi. C'est ça qui est intéressant. Même si c'est mauvais ou si, voilà. Mais au moins, je me raconte, j'ai plus peur de me raconter, quoi.
Ça va vraiment mal quand vous commencez à ressembler à votre photo d'identité. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je trouve que c'est une phrase qui mérite qu'on s'y attarde 2 secondes. Est-ce que vous pensez que vous échappez, vous, à ces problématiques d'identité, Cédric Ido, grâce à l'imaginaire?
Ouais, c'est peut-être un espèce d'échappatoire, je pense, l'imaginaire. Je pense que j'ai échappé à pas mal de choses. J'ai grandi dans des quartiers sensibles. Et voilà, c'est peut-être ça qui m'a permis cet imaginaire-là. Je pense que ça m'a aidé. C'est pas des questions que je me suis posées, mais je pense que le simple fait de chercher autre chose et de se dire que il y a cet univers-là et puis il y a aussi celui-ci, de connaître plusieurs choses, de chercher, c'est peut-être pour ça que aujourd'hui j'ai peur de m'arrêter et de me cantonner juste à une seule terre, un seul territoire. Et voilà, j'arrive pas à me définir comme banlieusard, comme parisien, comme burkinabé, comme japonais, comme new-yorkais, je sais pas. Voilà, je suis perdu.
N'ayez pas peur, Cédric Ido.
Toi, pas de travail?
Non, j'attends une amie.
Moi, écouter tes chansons.
Tu as aimé?
Oui. Quand je l'écoute, je danse torse nu.
Je suis content que ma musique t'inspire.
Ouais, chez Juan, beaucoup aimé. On va fumer?
Ouais.
T'en as?
Ouais.
Viens. Asico flow. Asico.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Cédric Ido, un premier long métrage à ne pas louper avec un casting d'enfer, La vie de château. Et puis en sortant du film, on peut enchaîner avec un petit casier des familles. Bon, elle a en même temps le fusil dans l'étui. Hein. N'êtes pas un cogneur, mais j'ai remarqué que vous aimez bien ceux qui cognent.
Ouais, parce qu'ils cognent pas vraiment. Ils cognent de manière imagée. Et j'aime ça.
Les images.
C'est la meilleure manière de cogner, je pense.
Je m'en...
marche, sous les voûtes et les arches, galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche, je rêve de revanche, en semaine et le dimanche, je traîne en zone franche, où l'indigène flanche, où le système se penche, sur les peaux blanches, lèche les plus riches, prêche les bacchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent, ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides, le décor du nord et puis des caïdes, sans remords aucun et que la fièvre de leur guide, des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risquer l'homicide, des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide, j'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand ils projettent de mettre en place l'apartheid, quand ma tête à l'écart et la cause qu'ils plaident, quand ils nous briment, nous rejettent et puis nous dépossèdent, et mes tours sont laides, mon parcours est raide, je suis à bout, abîmé, nomade et sans remède, j'ai de la haine en trop, refuse l'entraide, je ne demande ni homo, ni offrande, ni aide. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours, je gère et endure, insulte, lutte, chute, échec et injure. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer, et pas mal de mes frères moisir sans loisir. Choisir au hasard un boulot à saisir, et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors, moi je sors et m'emmerde à mort, je vis sans horaire, je dors à l'aurore. J'adore l'univers de la nuit, ses abords, et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent, de riches coffres forts, sans effort se sauvent avant les renforts, la casse et le Delbord, ma race et mon folklore, la crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière, aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère, faire du son, du sport, la photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure, n'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, m'en tape du futur, joue ma vie au baltrap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte, et il en résulte mes raisons de prendre le colt, au vu de ce que je récolte, la crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte, le glaive sur ma tête, et puis sur ma route, puis... Gazé, en falche, 2005.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec l'ancien maire de Paris, Monsieur Bertrand Delanoë. À demain.
Oh, I do love this. Yes.